Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour cette édition d'Escale consacrée à la vaccination des enfants au Burkina Faso dans le contexte de la pandémie de Covid-19. 11 vaccins sont administrés aux enfants dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, y compris les vaccins contre la polio, la rougeole, la fièvre jaune et la tuberculose. Mais au début de cette année, la pandémie de Covid-19, qui a frappé d'abord la Chine puis s'est propagée à travers le monde, est venue bouleverser ce programme crucial pour la santé des enfants. Récemment, j'ai eu un entretien à distance avec Dr Marie Marcos, spécialiste en santé maternelle et infantile à l'UNICEF au Burkina Faso. Elle raconte comment, après le moment de panique suscité par la pandémie de Covid-19, le gouvernement burkinabé, soutenu par l'UNICEF, a pris des mesures pour assurer la continuité du programme de vaccination des enfants à travers le pays.
Nous avons eu notre premier cas de Covid-19 seulement le 9 mars, mais nous avons ressenti l'impact de la pandémie beaucoup plus tôt. Les pays qui s'occupent de l'approvisionnement en vaccins avaient été beaucoup plus tôt touchés. Et également les frets aériens ont été beaucoup plus tôt touchés. Donc, les premiers effets étaient ressentis plutôt par l'arrivage des vaccins. Et n'ayant plus de frets internationaux ou en nombre réduit, nous n'avons pas pu recevoir les vaccins qui devaient venir en janvier, en février, en mars, alors qu'en ce temps, on n'avait pas encore eu notre premier cas de COVID. Et lorsque maintenant on a eu les cas, on devait non seulement essayer de répondre déjà à cette situation de manque de vaccins qui s'imposait à nous, mais également répondre aux autres complications qui se sont ajoutées dès les premiers cas de maladie, telles que la recrudescence des rumeurs anti-vaccination sur les réseaux sociaux, les médias. Il était apparu des rumeurs comme quoi toute vaccination cachait une vaccination contre la maladie Covid-19 et qu'en réalité, cela pouvait contaminer les gens. Il y a eu bien sûr la peur qui s'est installée et cette peur s'est installée des deux côtés. Ce n'est pas seulement du côté des utilisateurs, mais aussi du côté des prestataires, comme quoi les hôpitaux devaient recevoir aussi des cas de malades de Covid-19 et que ces cas, la maladie étant très contagieuse, si on va dans les structures de santé, on pouvait être contaminé. Il y a bien sûr aussi d'autres problèmes tels que la phobie qui s'est installée aussi parmi les cadres. On ne pouvait plus aller en supervision. Et sans compter cela, s'est ajouté les complications en lien avec les mesures de prévention et de contrôle de l'infection qui se sont installées, à savoir le confinement des villes, la limitation du nombre de personnes rassemblées à 50 et la distanciation, la quarantaine aussi qui s'est installée et des villes entières. Nous étions fermés à un moment donné, même si le ministère continuait de travailler, plusieurs partenaires n'étaient plus accessibles. Maintenant, par rapport à la vaccination spécifiquement, il y a eu une discontinuité. Rapidement, on a constaté cela par les données qui nous parvenaient. Ce que ces données montraient, qu'il y avait une diminution des couvertures, une diminution des performances par antigène. Et lorsqu'on fait l'analyse, on voit qu'on avait des milliers d'enfants qui étaient privés de vaccination au premier trimestre. Et cela a été surtout marqué par la chute de la couverture vaccinale en mars. Parce que le mois de mars a été le mois le plus dur en termes de rupture, de discontinuité des services, y compris les services de vaccination. Donc, lorsqu'on a fait cette lecture, tout de suite, on a réagi au niveau central. C'était de donner des directives aux gens, de les orienter par rapport à la maladie, de dire que oui, cette maladie est contagieuse, qu'on peut l'avoir, mais en prenant des mesures de protection individuelle et collective, on pourrait continuer à donner les services. Et donc, nous avons tout de suite essayé de sortir une première directive qui donnait des lignes d'orientation à comment réorganiser les services pour que les services de vaccination puissent continuer.
Quand est-ce que les vaccinations ont progressivement repris?
En fait, il n'y a pas eu un arrêt complet. On a juste comparé la couverture, c'est-à-dire chaque mois, nous connaissons le nombre d'enfants qu'il faut vacciner. Et en janvier, on savait quelle était la proportion de ces enfants vaccinés. En février, on avait à peu près la même tendance et même un peu plus améliorée. Et puis, boum, en mars, aucun des vaccins n'avait pu atteindre 100% des enfants. Des directives simples de quelques pages sont sorties. Et dès avril, la remontée de la couverture a commencé à être observée. Ça n'a pas été partout et pour tous les vaccins tout de suite, mais progressivement, tous les vaccins ont remonté en couverture et tous les enfants ont commencé à pu être atteints. Lorsqu'on a fait, par exemple, en mars, à la survenue des premiers cas, confinement, mesures de distanciation, on a vu qu'on avait environ 18 000 enfants qui n'étaient pas couverts ce mois-là, au premier trimestre. Et ça a chuté progressivement jusqu'à 4 000 enfants qui n'étaient plus couverts en juin. Donc, on a des chiffres qui nous permettent de voir, depuis des milliers d'enfants non couverts en mars, qu'on a diminué progressivement jusqu'à 4 000 enfants qui n'ont pas pu être complètement vaccinés selon le plan de vaccination.
Docteur Marie Marco se souvient comment, en début d'année, la peur s'est installée, alors que des mesures de confinement, de quarantaine et de distanciation physique ont été mises en place par les autorités du Burkina Faso pour lutter contre la pandémie de Covid-19.
La panique était vraiment généralisée, parce qu'il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, il y a des régions qui n'ont pas eu de cas. Personne ne prévoyait la tendance au départ, donc tout le monde vivait la même panique. Que ce soit les régions qui sont déjà très touchées, comme le centre ici à Ouaga, comme des régions qui n'auront jamais eu de cas par la suite, tout était dans la panique.
Est-ce que vous prévoyez des chiffres encore meilleurs pour le mois de juillet?
La couverture ne fait que s'améliorer. Je pense que maintenant, avec la maîtrise de la situation de la pandémie à coronavirus, et puis il y a aussi le fait que beaucoup de documents et d'orientation sont déjà mis en place. Il y a aussi un guide que le pays a élaboré, le guide d'orientation de la continuité des services de manière générale, y compris la vaccination, sans compter que le programme de vaccination lui-même a fait plusieurs documents de continuité de la vaccination, tant dans les zones insécurisées que dans le contexte du Covid. Des financements sont mobilisés pour acheter du matériel et des équipements qui sont déployés au niveau des formations sanitaires jusqu'à la périphérie. Et puis, l'accompagnement qui est fait d'abord par les vidéoconférences et qui sont maintenant ponctués par quelques descentes sur le terrain, tout cela rassure le personnel et la tendance ne pourrait être qu'à l'amélioration.
Docteur Marie Marcos est particulièrement fière de la réactivité du Burkina Faso à une épidémie de paralysie flasque aiguë survenue dans la région du centre-est du pays. Cette maladie est due à un poliovirus qui est un virus dérivé de la vaccination incomplète.
Pendant la pandémie, nous avons également remarqué qu'il y avait beaucoup de cas d'épidémie qui survenaient. Je me rappelle qu'on avait un seul cas de paralysie flasque aiguë dû au poliovirus. Un seul cas suffit pour déclarer une épidémie. Et on devait reprendre la riposte en mars. Et c'était le jour même où on allait partir sur le terrain que le confinement a été décrété. Pendant le confinement, bien sûr, on continuait d'observer cette région et les cas se sont multipliés. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 673 cas d'enfants paralysés par le poliovirus. C'est un virus dérivé, c'est-à-dire dérivé de la vaccination incomplète. Et donc, cela a fait que nous avons pu organiser une campagne malgré la pandémie. Mais cette décision d'aller à la campagne, malgré que c'était réellement interdit, était basée sur des critères que nous avons longuement analysés. La région n'avait pas de cas de COVID jusque-là. Les enfants continuaient d'être paralysés. Nous avons assez de financement pour prendre en compte la prévention et le contrôle de l'infection à COVID entre nous et les enfants à vacciner et entre nous et les communautés. Et nous avons mis en place une communication assez suffisante pour informer les gens sur ce que nous faisons, pour leur dire que nous prenons en compte les mesures de COVID et que nous allons tout faire pour ressortir de cette région en vaccinant les enfants, en les protégeant, mais en assurant qu'il n'y aurait aucun cas de COVID. Jusqu'à là, ça fait deuxième mois maintenant qu'on a fait cette campagne, porte à porte, malgré l'interdiction, et il n'y a pas eu jusque-là de cas de COVID dans cette région. Je pense que c'est l'un des espoirs que je voudrais vraiment souligner ici, et cela nous a beaucoup encouragés. On continue d'avoir des cas et on se prépare maintenant à une campagne beaucoup plus grande qui couvrira des millions d'enfants. C'était que 159 000 enfants qu'on avait couverts avec cette petite campagne, mais c'était nécessaire parce que c'était la seule région frappée en ce temps. Aujourd'hui, on a 9 régions qui sont touchées par cette épidémie de polio qui paralyse des enfants. Et donc, on se prépare à une grande campagne qui va couvrir environ 3 millions d'enfants.
J'ai demandé à Dr Marie Marcos quelles leçons elle tirait de la pandémie de Covid-19 et de son impact sur les systèmes de santé et les programmes de vaccination. Elle estime que la pandémie a remis en cause toutes les certitudes jusque-là acquises.
En réalité, je pense que le Covid-19 a été d'une grande leçon pour l'humanité entière, pour le système de santé en particulier, que en réalité les frontières ne sont pas si solides. Les frontières en termes géographiques comme en termes de délimitation du monde, je veux dire pays en voie de développement, il n'y a aucun système qui a été épargné. Et cela est la première leçon que moi je tire de cette situation, c'est que la pandémie à coronavirus est un événement assez complexe qui remet en cause toute notre certitude jusque-là acquise. Maintenant, l'autre leçon que je tire, c'est que nous avons été capables quand même, malgré la méconnaissance de l'infection, nous avons été capables d'une réactivité assez positive et rapide. Parce que moi-même, je ne m'attendais pas à ce que nous observions une discontinuité des autres services. Personne ne s'attendait à ça. Et lorsque c'est survenu, c'est un peu comme si chaque semaine, nous maîtrisons un peu plus la situation. Donc, la leçon que je tire de ça, c'est qu'en réalité, à toute situation, on peut s'adapter, mais il faut réellement que nous soyons vigilants pour observer correctement tout ce qui survient autour de ce qui arrive, de l'événement qui arrive. L'autre chose, c'est qu'il faut une communication assez globale. Il ne faut pas que la communication soit orientée vers un seul groupe de cibles, mais essayer de parler à chaque composante de la population selon son niveau de compréhension et surtout selon les informations contradictoires qui peuvent arriver. Parce que les rumeurs, parfois, c'est loin d'être l'apanage des gens qui ne se connaissent pas. C'est parfois les intellectuels qui les émettent. Et donc, ils ont aussi des arguments. Et pour aller contre, il faut vraiment qu'on puisse aussi discuter avec eux, comprendre où se trouve leur problème, où se trouve le gap de compréhension. Il y a le partenariat qui a été aussi très efficace, que moi je trouve comme une très belle leçon. Des partenaires conventionnels, par exemple, de la vaccination, ont mis de l'argent dans la protection et le contrôle de l'infection à COVID, ce qui a permis de renforcer les mesures de prévention et de rassurer les prestataires et même les utilisateurs, parce qu'on a même distribué des masques au moment qu'ils amenaient leurs enfants à la vaccination. On leur faisait laver les mains, on leur donnait un pain de savon, ce qui permettait de continuer et de se rassurer que nous avons conscience que cette infection existe et que, en faisant ces gestes, nous les rassurons que réellement, il y a un moyen qui, respecté, pouvait réellement permettre de contrecarrer l'infection. Maintenant, il y a aussi le côté financement. Il faut dire que certains pays n'avaient pas prévu certaines dépenses, notamment en ce qui concerne la prise en charge ou les mesures de prévention et contrôle de l'infection à COVID. Et cela a empiété sur le financement de manière générale pour certains programmes. C'est le cas, par exemple, du cofinancement du Burkina Faso pour la vaccination, qui s'est vu complètement à plat. L'État n'était plus en mesure de cofinancer cette année certains antigènes. Et tout de suite, la Banque mondiale, qui a donné un certain montant pour la réponse au COVID, a aussi pris en compte les dégâts collatéraux de la pandémie en donnant un fonds pour que les vaccins puissent continuer à être achetés pour cette année. Donc, je dirais tout simplement que les enseignements tirés, c'est surtout la surprise de départ, mais que l'homme a été d'une adaptation extrême face à cette pandémie et la réactivité qu'il y a eu face à ça a permis de rapidement cerner les défis et les difficultés qui s'imposaient. Cela a permis d'avoir rapidement un impact. Mm-hmm. Moi-même, j'ai été surpris qu'en moins de 2-3 mois, on a pu remonter rapidement la pente de la couverture vaccinale.
Voilà la fin de cette édition d'Escale avec Dr Marie Marcos, spécialiste en santé maternelle et infantile à l'UNICEF au Burkina Faso. Vous pouvez retrouver tous nos programmes sur Internet et sur nos comptes médias sociaux, Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité et à bientôt.